Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo. Comme chaque vendredi, on est ensemble de 8h à 9h30 et tout à l'heure à 8h45, notre invitée sera Sophie Richard, la fondatrice du réseau national Viagimo. Donc avec elle, on va parler viager. C'est Erwan Lemercier qui s'entretiendra avec elle. Mais avant, pendant 45 minutes, on va faire le tour de l'actualité immobilière. Alors que vous soyez locataire ou propriétaire, que vous ayez envie de devenir propriétaire, voilà, cette émission est faite pour vous. Vous allez apprendre pendant 45 minutes et puis pendant une heure et demie avec notre invité également. Alors aujourd'hui, je rappelle quand même qu'on est le 22 mars, c'était le printemps il y a deux jours, donc voilà, on est bien, il fait beau, les oiseaux chantent, là c'est vendredi matin, ce soir c'est le week-end pour beaucoup d'entre vous, donc voilà, on est ravis de vous accompagner et aujourd'hui on fête les Léas. Voilà, donc bonne fête aux Léas. Pendant cette première partie, on va parler de la transformation des bureaux en logement. On va découvrir aussi une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. On va écouter Charles Marinakis, avec qui je me suis entretenue lors de la Convention nationale Century 21. On parlera aussi des crises climatiques. Vont-elles avoir un impact sur des marchés, sur les marchés immobiliers? Voilà, donc on est ensemble pour ce Mac de l'Immo.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
Et on commence tout de suite avec la revue de presse de la semaine. Elle est signée Erwan Lemercier, on écoute.
Cette semaine, dans la revue de presse sur Radio Immo, nous reviendrons sur le documentaire de France TV, Immobilier, la loi de la jungle. Les maires qui s'inquiètent de l'interdiction à la location alors que l'on manque déjà de logements. Et pour finir, je sais que vous l'attendez tous, le classement des rues les plus chères de France. Allez, c'est parti. Ce mardi 19 mars, France Télévisions a diffusé un documentaire sur la crise du logement qui heurte l'Hexagone. Un documentaire qui expose les dérives d'un secteur en crise depuis plusieurs années, entre l'explosion des locations courte durée, les méthodes peu scrupuleuses de propriétaires en mal d'argent et les locataires mauvais payeurs impossibles à déloger. Intitulé « Immobilier, la loi de la jungle », je vous propose d'aller découvrir ensemble cette jungle. Depuis près de 2 ans, en effet, le marché de l'immobilier connaît une crise sans pareil. En France, 4 millions de personnes sont logées dans des conditions inconfortables ou indignes. Au total, c'est plus d'un Français sur 5 qui est concerné par cette crise. Un Français sur 5, dont Karen et son conjoint font partie, vivant à Annecy, et c'est un exemple justement qui est très parlant, parce qu'ils ont un revenu de 6000 euros net par mois à deux et un CDI chacun, et pourtant ils sont contraints de vivre depuis plusieurs mois dans une caravane qui est installée sur un terrain vague, faute de trouver un logement. Alors en plus de la pénurie de location, des taux d'intérêt multipliés par 4 en 2 ans, la saturation du marché par la location de meublés touristiques, petit exemple, rien qu'à Paris, 15% du parc locatif serait désormais de courte durée, l'effondrement de la construction, l'insalubrité, les problématiques s'accumulent et les victimes aussi. Alors si Karen et son compagnon peinent à trouver une location, d'autres ne parviennent pas à se défaire de squatteurs, eux-mêmes dans l'impossibilité d'obtenir un logement social. Habilement, le documentaire switch d'un sujet à l'autre sans jamais passer du coq à l'âne. Alors ce documentaire, il laisse place au contradictoire et les intervenants qui sont nombreux et surtout très pertinents éclairent le propos et l'humanisent sans l'alourdir. Un documentaire que je vous invite à regarder et qui est disponible en replay sur le site de France TV. Alors que l'interdiction de mise en location des passoires thermiques va sortir du marché de nombreux logements, certains maires commencent à exprimer leurs craintes. Vous le savez, le calendrier d'interdiction de location des passoires thermiques, lui, il arrive à grands pas. À partir du 1er janvier 2025, les logements classés G ne pourront plus être proposés à la location, ceux classés F interdits dès 2028 et les E dès le 1er janvier 2034. Alors si les enjeux sont facilement compréhensibles, accélérer la transition écologique et offrir des conditions décentes aux occupants. Beaucoup de professionnels s'interrogent sur la pertinence d'interdire de louer des logements alors que la France connaît actuellement une pénurie. En effet, dans un entretien accordé à nos confrères de l'Union, le maire de Reims, Arnaud Robinet, résume parfaitement l'inquiétude de certains maires en déclarant qu'il faut bien sûr accompagner les propriétaires pour transformer et améliorer la qualité énergétique de ces logements. Par ailleurs, dans ses 25 propositions pour le logement, l'un des axes de l'Association des maires de France, l'AMF, est de stopper l'aggravation de la pénurie de l'offre. L'AMF demande notamment d'imposer une pause législative et réglementaire à titre conservatoire sur de nouvelles mesures contraignant la production. Les maires, eux, peuvent uniquement appeler le gouvernement à rapidement revoir sa copie, ce qui a d'ailleurs été fait mi-février. En ce qui concerne les interdictions à la location, seul un juge pourra, au cas par cas, déroger à cette interdiction. Et le site d'estimation en ligne Meilleurs Agents a dévoilé ce mardi 19 mars le palmarès des rues les plus chères dans les 50 plus grandes villes françaises. Bon, alors si comme moi vous adorez le Monopoly, vous risquez d'être déçus hein, puisque ce n'est pas la rue de la Paix que l'on s'arrache tous en famille hein, qui arrive en tête, mais plutôt la rue de Fürstenberg dans le 6e arrondissement de la capitale. Pour y acheter un bien immobilier, il faut dépenser la modique somme de 24 272 euros pour le 1 mètre carré. Un top 5 qui est 100% parisien, puisque les quatre autres rues les plus onéreuses en France sont celles aussi nichées dans le cœur historique de Paris, parmi elles le quai des Orfèvres, où le prix moyen atteint les 23 777 euros le mètre carré, ou encore l'avenue Montaigne à 23 123 euros le mètre carré. Après Paris, le soleil de la Côte d'Azur lui plaît toujours autant, et c'est ce qui fait grimper le prix de l'immobilier juste après la capitale. C'est Cannes qui détient les rues les plus chères de France. Pour vous acheter un logement sur le mythique boulevard de la Croisette face à la mer, il vous faudra débourser la modique somme de 12 410 euros du mètre carré, soit quasiment moitié moins que la rue la plus chère de France, qui, on le rappelle, est à plus de 24 000 euros. Suivant le classement, Antibes, Nice, Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, sans oublier la belle ville rose, Toulouse.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
Bienvenue dans le Mac de l'Immo. De retour, on est ensemble jusqu'à 9h30. À 8h45, Sophie Richard sera avec nous. C'est la fondatrice du réseau national Viage Immo. On va parler viager avec elle. Si vous ne savez pas ce que c'est ou les différents types de viager qui existent, eh bien restez avec nous. Le viager n'aura plus aucun secret pour vous. Et puis, on va aussi rafraîchir un peu l'image du viager. Hein. En tout cas, là, on parle tout de suite de la Cour de cassation qui vient de rendre un avis décisif quant à l'indemnisation liée à l'expropriation d'un bien immobilier construit illégalement. On écoute Vincent Favreau.
Dans tous les cas possibles, une expropriation se terminait par le départ du propriétaire avec des indemnités versées par la puissance publique, même en cas d'expropriation sur une construction illicite. Oui, vous avez bien entendu, les propriétaires occupants expropriés étaient indemnisés alors même que leur bien immobilier était construit là où il n'aurait pas dû exister. Eh bien, cette dernière bizarrerie administrative vient d'être rectifiée, comme le soulignent nos confrères du Figaro Immobilier. C'est par un arrêt de la Cour de cassation que cette nouvelle donne va pouvoir s'appliquer. Une citoyenne demandait une indemnité d'expropriation en se basant sur la prescription « Mon logement a été construit il y a bien longtemps, il y a donc prescription sur le fait que je devais avoir une autorisation pour construire. Mon logement n'est donc plus illicite. » Eh bien, la Cour de cassation ne l'a pas entendu de cette oreille. La construction reste illicite et son existence ne crée pas un droit juridiquement protégé, nous dit la Cour. Par conséquent, notre citoyenne ne sera pas indemnisée sur la base d'une construction, mais sur la base d'un terrain nu, et passe ainsi de 82 000 euros d'indemnité à 5 400 euros. Une grosse perte pour elle et pour la société tout entière, une nouvelle règle qui vient largement replacer dans la cohérence une règle auparavant ubuesque.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo et j'ai eu le plaisir de m'entretenir cette semaine avec Hervé Degreffe qui est cofondateur de Vasco. Alors Vasco, c'est une entreprise qui finance les travaux de rénovation énergétique en échange d'une part du logement. Comment ça fonctionne? À qui ça s'adresse? Eh bien, on l'écoute tout de suite. Hervé Degreffe, bonjour. Vous êtes cofondateur de Vasco.
Oui. Tout à fait. Vasco est une nouvelle solution de financement de la réno énergétique pour les particuliers.
Alors justement, donc c'est vrai que la rénovation énergétique, on en parle beaucoup en ce moment. C'est pas très clair pour les particuliers, faut dire ce qui est. En quoi ça consiste du coup votre solution? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quel service vous apportez?
Alors Vasco est une nouvelle solution de financement. Donc ce qu'on ne fait pas avant tout, c'est on ne fait pas les travaux, on n'accompagne pas les clients sur les aides. Nous, on s'occupe de financer le reste à charge pour les gros travaux. quand finalement les clients ont trouvé leurs artisans, ont trouvé les travaux qu'ils souhaitent faire et ont potentiellement trouvé des aides mobilisables pour leur chantier, nous, et qu'il reste souvent quelques dizaines de milliers d'euros à financer, pour les clients qui n'ont pas les liquidités pour les financer en cash, ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas faire appel à un nouvel emprunt bancaire, Vasco est capable de financer 100% du chantier ou du reste à charge du chantier, non pas en échange d'un prêt, mais en échange d'une part de la maison. Donc ça s'appelle du capital immobilier. Donc ça consiste effectivement à aller chercher l'argent non pas sur le compte du client, ni sur ses revenus futurs, mais sur son patrimoine immobilier, de sorte à ce que ce soit finalement la maison qui finance elle-même sa rénovation.
D'accord, donc en fait, mais comment avez-vous les fonds nécessaires? J'imagine que vous avez des fonds pour financer, pour avancer les travaux.
Oui, absolument, on a monté deux structures, une foncière d'un côté, dans lesquelles rentrent des investisseurs qui vont financer effectivement ces travaux et par le biais de cette foncière détenir des bouts de maisons rénovées, quelque part qui vont acheter des bouts de passoires thermiques pour les transformer en bouts de maisons rénovées et au passage créer de la valeur pour eux et pour le client. Et à côté, une société de gestion qui, elle, va sourcer ses biens, les qualifier, décider ou non d'investir pour le compte de la foncière, accompagner le client jusqu'à chez le notaire, suivre les travaux et ensuite suivre la vie du projet jusqu'au débouclage de l'indivision. Parce que peut-être que je peux vous donner un exemple de bout en bout pour que ce soit plus clair pour vous et vos auditeurs, qui est assez classique dans ce qu'on finance aujourd'hui. Prenons un client qui a une maison d'une valeur de 300 000 euros, dans laquelle il y a 30 000 euros de travaux à financer. Mmh. Potentiellement, plus de travaux, mais en tout cas 30 000 euros de reste à charge aide déduite. Et ce client, effectivement, ne passe pas à l'action puisque 30 000 euros, il ne les a pas et sa banque ne souhaite pas lui prêter. Dans ce cas-là, effectivement, la proposition de Vasco, c'est contre ces 30 000 euros que Vasco va verser, Vasco va détenir une part de son bien, qui sera la suivante. Donc, dans ce cas-là, 30 000 euros dans une maison à 300 000 euros, ça représente 10% de la valeur de la maison. Mmh. Dans ce cas-là, Vasco va détenir non pas 10%, mais 13% de la maison. On applique un facteur 30% entre ce qu'on investit et ce qu'on détient. C'est comme ça que les investisseurs de la foncière vont se rémunérer à la sortie. Donc, Vasco acquiert ses 13% en pleine propriété chez le notaire, va évidemment signer chez le notaire cet acte d'achat en indivision et une convention d'indivision en parallèle pour régir les droits et devoirs de chacun pendant la durée de l'indivision qui est de 10 ans, de sorte à devenir un copropriétaire dormant du bien, pour ce que Vasco va céder évidemment son droit d'usage d'habitation, de même que Vasco n'a pas envie de payer les charges du client, le client n'a pas envie que Vasco choisisse la couleur de son papier peint, on décide des travaux qu'il va
bien
faire
sûr. À l'avenir. Mais du coup, pour les investisseurs, c'est un investissement quand même sur le long terme, il faut le dire.
Oui, absolument. En moyenne, les clients détiennent leurs biens, vous le savez certainement, en France, 7-8 ans.
C'est 8 ans en moyenne, oui, voilà.
Ouais, voilà, c'est ça, ça varie un petit peu. Puis ça varie surtout beaucoup selon les biens.
Hein. Bien sûr.
Un petit bien à Paris est détenu beaucoup moins longtemps qu'une grande maison en Provence. Et Vasco rentre en général plutôt chez des propriétaires occupants qui détiennent leurs biens en moyenne depuis 4-5 ans. Mmh. Donc effectivement, il y a une durée de détention qui va varier d'un bien à l'autre, mais qui va être relativement longue. Les investisseurs dans Vasco, effectivement, ne rentrent pas pour ressortir un an plus tard, en général. On cherche des investisseurs patients qui, effectivement, vont déployer du capital, qui vont réaliser, effectivement, un rendement grâce à la valorisation des marchés de l'immobilier, plus aux 30% qu'on détient en plus de l'investissement qu'on met sur la table. Le jour où on va chez le notaire, on a 30% de plus que ce qui est investi en part du bien, et plus la valeur verte qui est créée par les travaux. Mmh. Vous avez certainement ces chiffres en tête que sortent les notaires. Une étiquette énergétique,
ouais, bien sûr.
Et c'est en moyenne 6%. Donc en moyenne, nous, on finance des travaux qui ont gagné 3 étiquettes énergétiques. Donc en moyenne, il y a un gain de 20% dans les travaux. Donc aujourd'hui, on est capable de servir un rendement cible de 8-9% des investisseurs. Modulo, effectivement, un peu de patience, puisqu'on prête, finalement, on avance de l'argent aux clients sur le long terme, on a besoin d'investisseurs qui sont là pour quelques années également.
Mmh. Est-ce qu'il y a des profils que vous refusez de particulier? Est-ce qu'il y a des conditions? Est-ce qu'il faut remplir certaines conditions?
Alors oui, mais ce qui est intéressant, c'est contrairement à une banque, on ne regarde pas les mêmes critères. La banque va regarder la capacité d'un client à rembourser une créance, donc va regarder son âge, sa santé, ses revenus, son taux d'endettement, et va s'intéresser relativement peu au projet en lui-même financé. Nous, on fait l'inverse. On s'intéresse beaucoup au projet, donc au bien en lui-même.
Bien sûr.
Voilà, ses caractéristiques immobilières, aux travaux qui sont faits et à la capacité que ces travaux ont à créer de la valeur. Mm. et très peu au profil du client.
Oui, oui. Donc, vous, c'est le bien qui vous intéresse au final. Hein.
Exactement, c'est le bien et surtout la capacité qu'ont les travaux à créer de la valeur dans le bien. Donc, on est capable aujourd'hui d'accepter des gens qui sont dans des situations assez compliquées d'un point de vue personnel.
Ouais.
Des gens très âgés, des gens qui étaient malades, des gens qui bien sont chômage, des gens qui sont au maximum de leur endettement. En revanche, évidemment, on va être sélectif puisqu'on va pas pouvoir investir dans des travaux qui ne font pas sens d'un point de vue économique pour Vasco et ou qui sont réalisés par des professionnels dans lesquels on n'a pas confiance, ni dans un bien qui est d'un point de vue immobilier et dans une zone dans laquelle on ne croit pas. Donc, on a des critères qui sont plus liés au projet, à la valeur immobilière actuelle et future du bien et aux travaux qui sont réalisés dans ce bien, beaucoup plus que effectivement caractéristiques intrinsèques du ménage comme le fait une banque.
Alors justement, pour vous trouver, donc c'est sur internet, j'imagine.
Oui, vasco-impact.com. Effectivement, les clients viennent nous voir en direct ou alors effectivement, c'est aujourd'hui surtout des professionnels du monde des travaux ou de l'immobilier qui nous apportent aujourd'hui des clients qui n'arrivent pas à passer à l'acte, donc qui ont la volonté de faire des travaux, qui ont des bonnes raisons de faire des travaux, soit pour du confort, soit pour des économies d'énergie, soit pour la valeur patrimoniale de leur bien qui se dégrade à mesure qu'effectivement la valeur verte est quelque chose d'important, et qui ne peuvent pas passer à l'acte pour des raisons financières. Ils sont nombreux hein, dans les carnets de commandes, surtout des artisans aujourd'hui, mais également des agences immobilières qui ont du mal à liquider certains biens puisqu'ils ne se vendent pas en raison de leur étiquette énergétique. Donc l'essentiel de nos clients nous viennent via nos partenaires immobiliers et travaux, et on a pas mal de clients effectivement qui viennent en direct et qui se disent ben finalement je sais que je ne peux pas me payer les travaux avec mes comptes bancaires et avec mes revenus, mais si Vasco est capable de les financer en échange d'une part de ma maison, je peux avancer. Dans ce cas-là, on les renvoie vers des artisans partenaires et ils nous reviennent quelques mois plus tard, une fois que les devis sont sur la table et qu'on est capable de nous prononcer.
Eh bien, merci beaucoup Hervé Degrève, donc vasco-impact.com.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi. Allez, courage, ce soir c'est le week-end. En plus, c'est génial parce que les jours se rallongent, il fait nuit plus tard. Alors, je sais pas vous, mais moi, ça me donne de la motivation. Il fait beau en plus, donc que demander de plus? Bon, dans quelques instants, on découvrira une start-up grâce à Jean-Michel Royot, une start-up Immo, bien évidemment. On parlera des crises climatiques qui vont peut-être impacter certains marchés immobiliers. Et puis, je vous parlerai en revanche d'une mauvaise nouvelle. D'emploi, 300 000 emplois seraient menacés hein, selon la FFB, la Fédération française du bâtiment. Je vous en parle dans quelques instants, mais tout de suite, on parle de transformer les bureaux en logement. Erwan Lemercier nous explique que les députés disent oui.
Transformer les bureaux en logement, les députés disent oui. Voilà pour une fois un sujet qui met tout le monde d'accord. En effet, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité en première lecture une proposition de loi portée par le député Romain Daubier. Des Français qui peinent à trouver un logement d'un côté et de l'autre, 4,8 millions de mètres carrés de bureaux vacants rien qu'en région Île-de-France. Face à ce contraste saisissant, les députés ont décidé d'agir en permettant et en simplifiant la transformation de bureaux en habitation. Alors si le sujet de la crise du logement met malheureusement tout le monde d'accord, la transformation de ces bureaux en logement est-elle la solution pour provoquer le choc d'offres que souhaite Gabriel Attal, le Premier ministre ? Certains pointent cette proposition de loi comme étant une fausse bonne idée et on vous explique pourquoi. En effet, hein, transformer des bureaux en logements, bah, ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Déjà, l'immeuble concerné doit faire l'objet d'un changement de destination. Son propriétaire, lui, va devoir vérifier que les règles du plan local d'urbanisme, le PLU, qui fixe les règles d'utilisation des sols afin d'autoriser la transformation de bureaux en logements dans des zones qui, en principe, bah, ne peuvent pas être dédiées à l'habitation, donc que il n'y s'y oppose pas. Ensuite, il devra déposer une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire pour déclarer le changement d'affectation au cadastre dans les 90 jours de la réalisation du changement de destination. Et si l'immeuble est en copropriété, il devra obtenir un vote à l'unanimité en assemblée générale. Mais ce n'est pas tout. Si l'administratif peut décourager, eh bien, il y a plusieurs freins qui viennent s'y ajouter. Transformer un immeuble haussmannien qui accueille des bureaux en habitation, bah, ça ne pose aucun problème. Hein. En revanche, pour les bâtiments, bâtiments construits et pensés pour être des bureaux, le coût de la transformation peut s'avérer lourd. Dans ce type d'immeuble, certains espaces n'ont pas ou très peu d'accès à la lumière naturelle. Il faut également y insérer des salles d'eau, des cuisines, mais aussi des balcons ou des terrasses, ce qui signifie une rénovation totale des façades. Bref, les coûts semblent faramineux. Autre problème identifié pour mettre en œuvre la proposition de loi visant, on le rappelle, à faciliter la transformation de bureaux en habitation, la rentabilité. En effet, la rentabilité moyenne d'un immeuble de bureau se situe autour de 8 à 9%, tandis qu'elle est d'environ 6% pour les habitations, soit 3% de moins. Un changement de destination ne serait donc pas intéressant d'un point de vue financier pour les investisseurs, d'autant plus que le tertiaire est beaucoup plus facile à gérer que l'habitation. Cette mesure a suscité le débat à l'Assemblée nationale. Certains députés craignant notamment qu'un bâtiment puisse être taxé à deux reprises, à sa livraison, puis à sa transformation. Cependant, le ministre délégué au logement, Guillaume Kasbarian, n'a pas exclu de revenir sur cette disposition, précisent nos confrères des Échos. Il sera toujours temps de corriger le tir dans le cadre du prochain projet de loi finance si on se rend compte que cette taxe freine les opérations de transformation, a-t-il affirmé. Et autre nouveauté, la création d'un permis de construire à destination multiple. Espéré depuis de nombreuses années par les promoteurs immobiliers, celui-ci permet de changer l'usage d'un bâtiment sans qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme soit nécessaire.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
De retour dans le Mac de l'Immo sur Radio Immo. Et vous le savez, avec Radio Immo, on couvre de nombreux événements. Et là, ce week-end, enfin dimanche et lundi dernier, nous avons couvert la 34e convention nationale de Suntory 21. Suntory 21 France, hein, puisque vous le savez, c'est une marque internationale américaine. Et j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Charles Marinakis, le président de Suntory 21 France. On va écouter un passage de son interview. Alors l'interview était à écouter en intégralité sur le site radio.imo. Vous retrouverez d'ailleurs d'autres interviews qui ont été faites lors de cette belle convention. En tout cas là, voici un court extrait de celle de Charles Marinakis qui nous parle en fait du lien qu'il y a entre le métier d'agent immobilier et le rugby, le sport. Et puis il nous parle aussi d'un prix qu'il a remporté, qu'il s'est vu remporter aux États-Unis il y a deux semaines, le prix de leader mondial du développement en 2023. On l'écoute sur Radio Immo. Bonjour Charles Marinakis, comment allez-vous ?
Bonjour Bérénice, aller mieux ce serait insolent.
Pourquoi c'est important d'être partenaire comme ça, d'équipe sportive ? Est-ce que vous voyez là un parallèle avec le métier d'agent immobilier ?
Oui, alors là, ce sport dégage, si vous voulez, des caractéristiques et des valeurs qui correspondent parfaitement à notre conception du métier d'agent immobilier. Voilà. Et d'abord, c'est avant tout l'esprit d'équipe, la collectivité, la combativité, l'engagement, le sens du sacrifice parfois. Et puis à la finale, le respect parfait du combattant, vainqueur ou vaincu. Je dirais qu'on peut assimiler aussi au respect du client quelque part, un respect mutuel qu'on se doit. Et vraiment, on retrouve toutes ces valeurs dans ce sport-là, dans cette, à la fois, je vous dis, dans la partie de l'équipe en elle-même, de la team, dans l'engagement de la collectivité. Au rugby, personne ne se cache, hein, vous l'avez vu hier c'est soir. Vrai. Donc c'est comme dans les équipes de transactions, personne ne se cache dans une agence Suntory 21.
Alors, on parle de Suntory 21 France qui s'est vu récemment recevoir le prix du leader mondial du développement 2023 devant 86 pays. Ce prix, vous l'avez reçu aux États-Unis.
Yes.
Il faut dire qu'en termes de développement, vous avez surperformé dans un contexte compliqué, il faut le rappeler. Vous avez terminé l'année en croissance l'année dernière puisque vous êtes passé donc de 950 agences à 965 en 2023. Est-ce que l'on peut dire que le modèle Suntory 21, c'est le meilleur modèle pour traverser la crise ?
Incontestablement, d'abord, c'est le plus ancien des modèles. Je vous rappelle que Suntory 21 a été créé en 1987, qu'il a traversé l'histoire de l'immobilier sans dommages collatéraux, de manière régulière, en étant quasiment premier et le référent de ce métier depuis plus de 30 ans maintenant. Ça veut dire que ce modèle, il est éprouvé, il est aussi modernisé, il est actualisé, il est mis au goût du jour. Mais il a cette particularité qui vraiment nous correspond, c'est d'avoir cette capacité, si vous voulez, non pas à se remettre en cause, mais à se mettre à jour, à s'adapter à l'évolution l'évolution des marchés, sans jamais renoncer à ses valeurs originelles, que sont celles de, d'abord du choix du modèle de l'agence immobilière. Nous, on est une franchise immobilière de proximité, donc on a choisi d'être proche des gens. Et vous savez, les deux premières baselines qui ont été créées par Century 21, c'était d'abord, nous allons vous faire changer d'avis sur les agents immobiliers, c'est-à-dire que, je vous rappelle qu'en 1987, la réputation des agents immobiliers n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui, et tant mieux pour nous. À l'époque, il y avait un petit 40% du marché qui était intermédiaire contre 75% aujourd'hui, donc il y avait de la conquête à faire déjà dans la confiance. Et puis la deuxième baseline, la deuxième signature, peut-être la plus marquante, c'était pour être proche de vous, on a choisi d'être partout. Eh bien, on n'a jamais abandonné en fait cette baseline, on l'a toujours actualisée, modernisée, et on est resté assis sur nos convictions et sur notre stratégie, et force est de constater que c'est payant. Voilà, cette capacité à la fois à s'actualiser, je dirais pas à se remettre en cause justement, mais à être attentif à l'évolution du marché, à l'évolution de nos outils, à l'évolution de nos stratégies, tout en gardant nos référentiels. Et je crois que l'alchimie des deux explique très clairement le succès d'aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, qui sont vos concurrents alors ?
Je sais pas.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
Vous êtes bien sur Radio Immo dans le Mac de l'Immo. À 8h45, Erwan Lemercier sera en plateau pour accueillir Sophie Richard, la fondatrice du réseau Viage Immo. Vous l'avez compris, hein, spécialisée en viager. Justement, elle va tout nous dire. Alors, elle nous parlera du viager, mais pas que. On parlera aussi de son parcours, hein, puisque c'est une entrepreneuse. Voilà, elle nous expliquera comment elle a réussi à construire ce réseau national, hein, qui cartonne, il faut le dire. Voilà, on s'entretiendra. Enfin, en tout cas, Erwan s'entretiendra avec elle. On découvrira juste avant une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Mais tout de suite, on parle des crises climatiques. Les crises climatiques dont on parle beaucoup en ce moment, voilà, vont-elles avoir un impact sur des marchés immobiliers très localisés ? On écoute Vincent Favreau.
Les crises climatiques vont-elles avoir un impact sur des marchés immobiliers très localisés ? C'est la question que se posent beaucoup d'agents et de professionnels dans des territoires récemment touchés ou en prévision de l'être. Comme le rapportent nos confrères de Sud-Ouest, dans la ville du Croisic, on se demande si la montée des eaux pourrait avoir un impact sur le marché immobilier. Pas plus qu'avant, disent les professionnels du secteur, même si certaines rues se vendent moins bien qu'avant. Quelques compromis ont été annulés quand les clients ont étudier les cartes annexées, c'est ce que témoigne un professionnel dans les colonnes du journal. Beaucoup se font écho d'applications, de cartes de bonnes adresses sur Internet pour évaluer les risques à long terme, car sur l'ensemble des littoraux français, la menace est bien réelle. Certaines études estiment qu'une maison sur 10 en bord de mer pourrait être exposée à des risques d'inhabitabilité dans quelques années. Seule certitude, le risque ne se mesure pas sur les prix, car le pouvoir d'attractivité des côtes reste très puissant et les demandes sont très fortes. Ainsi, au Croisic, les professionnels témoignent du peu de clients qui font appel aux prêts bancaires. Les prix ne sont donc pas prêts de baisser sur le secteur. Autre sujet dans le Nord, les crues à répétition font peur à beaucoup d'habitants, mais pas que. L'impact des crues est puissant chez les ménages qui veulent quitter leur logement, mais les professionnels se questionnent sur les réactions du marché après les nombreuses crues qui pourraient laisser certains quartiers peu attractifs avec des habitants qui souhaitent partir mais qui n'arrivent pas à vendre. Une crise latente, le serpent qui se mord la queue à prévoir dans le Nord dans les années à venir. Enfin, il faudra regarder aussi du côté des stations de ski et de la difficile revente de biens dans des stations où la neige vient à sérieusement manquer. Bref, la crise climatique n'a pas fini d'occuper tous les marchés immobiliers.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
La semaine dernière, s'est tenue la conférence de presse de la Fédération française du bâtiment, la FFB, à la suite de laquelle j'ai pu m'entretenir avec son président, Olivier Salleron. D'ailleurs, l'interview est à retrouver sur notre site internet radio.immo. Mais je tenais quand même à vous résumer les points importants de cette conférence de presse. Alors, pour résumer, selon lui, selon Olivier Salleron, encore une fois, l'heure est grave. Ensuite, pour vous donner quelques chiffres, on constate que l'écroulement du logement neuf, alors que ce soit l'individuel et le collectif, hein, continue. Cette chute vertigineuse est hélas prévisible, vu le contexte économique peu favorable et la politique menée par le gouvernement. À fin janvier 2024, on enregistre moins 28,6% de mise en chantier sur 12 mois par rapport à l'année précédente et moins 27,8% d'autorisation sur 12 mois par rapport à l'année précédente. Des chiffres dramatiques. S'ajoute à cela la dégradation de la construction du non-résidentiel qui regroupe eh bien, les hôtels, les bureaux, les commerces, les bâtiments administratifs, agricoles, industriels. Eh bien, de novembre 2023 à janvier 2024, donc sur 3 mois, on enregistre moins 11,2% de surface non résidentielle commencée par rapport à la même période un an auparavant. Et lorsqu'on regarde dans le détail, ce chiffre atteint moins 48% pour les hôtels et moins 23,7% pour les bâtiments agricoles. Ensuite, on enregistre aussi moins 14,7% de surface non résidentielle autorisée par rapport à la même période un an auparavant. Et dans le détail, les hôtels, la chute a été pour les hôtels de moins 30% et pour les bureaux de moins 25%. Ensuite, selon son président, Olivier Salleron, 300 000 emplois seraient en péril dans la filière de la construction et plus globalement dans le secteur du logement. Les travaux de rénovation énergétique des particuliers sur lesquels misait la FFB pour tenter de maintenir un minimum le dynamisme du marché ne sont pas au rendez-vous. En cause, la complexification du dispositif MaPrimeRénov qui a entraîné une chute de plus de 75% des dossiers de rénovation énergétique des particuliers depuis le début de cette année. Heureusement, les fédérations représentant le bâtiment se sont mobilisées immédiatement. Hein, la FFB, la Fédération française du bâtiment et la CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ont ainsi rencontré immédiatement donc Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, et Guillaume Kasbarian, le nouveau ministre délégué au logement. Les négociations avec eux ont donné lieu à un rétropédalage du gouvernement concernant la réforme de MaPrimeRénov qui était entrée en vigueur en janvier dernier. Les négociations ont donné lieu à un rétropédalage du gouvernement concernant la réforme de MaPrimeRénov qui était entrée en vigueur en janvier dernier. Olivier Salleron regrette que toutes les propositions de simplification n'aient pas été validées. Pour lui, Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian ont perdu quelques arbitrages face à Bercy et face à l'Élysée. Mais il reconnaît que ces deux ministres sont plutôt du côté du bâtiment et il l'a dit, ce sont ses mots, les pieds sur les chantiers. Ensuite, la FFB demande des mesures urgentes, notamment la restauration du PTZ 2023, du prêt à taux zéro, l'assouplissement des règles fixées par le HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière, suite à la baisse de l'inflation, afin de relancer le marché du crédit et donc la demande, l'instauration du statut du bailleur privé, l'accélération des travaux sur la suite du Pinel, une pause normative pour la RE 2020 et enfin plus globalement des simplifications de manière générale pour le secteur. Et puis pour conclure, Olivier Salleron m'a confié que les artisans et les entrepreneurs du bâtiment étaient désespérés. Un désespoir qui commence lentement à se transformer en grogne, en colère, qui pourrait se généraliser et déboucher sur des actions menées sur le terrain. Le BTP serait prêt à descendre dans la rue.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
De retour dans le Mac de l'Imo, comme chaque vendredi, nous serons avec notre invité dans quelques instants à 8h45. Cette semaine, il s'agit de Sophie Richard, la fondatrice du réseau national Viagimo, qui s'entretiendra avec Erwan Lemercier. Mais tout de suite, nous découvrons une start-up Imo grâce à Jean-Michel Royot. Il s'agit de Just Unlock et on reçoit son cofondateur Alexandre Gouguidi. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Alexandre Gouguidi. Comment ça va Alexandre ?
Bonjour, ça va très bien et vous ?
En pleine forme ?
Oui, super.
Aujourd'hui, on va vous parler de votre start-up qui s'appelle Just Unlock. Quelle est la promesse de votre start-up, Alexandre ? C'est à vous.
Nous, on permet aux agents immobiliers de profiter de la gestion locative sans avoir aucune contrainte. La gestion locative est un métier qui est rempli de contraintes, que ce soit des contraintes juridiques ou des contraintes techniques, des contraintes financières. Et nous, en fait, on va vraiment prendre en charge toutes ces contraintes. On va sous-traiter finalement la gestion locative pour le compte de nos partenaires. Et du coup, on va leur permettre de capter un revenu additionnel puisqu'ils vont externaliser cette gestion locative et ils ne vont plus laisser partir des clients à la concurrence Étant donné que des agences aujourd'hui immobilières qui font essentiellement de la transaction et qui n'ont pas le temps de se concentrer sur la gestion locative risqueraient du coup de perdre des clients.
Donc votre cible, c'est les agents immobiliers spécialisés transactions et à qui vous permettez finalement d'élargir le spectre d'accompagnement et du bouquet de services, quoi.
Tout à fait.
Allez, on va vous donner une minute top chrono. Vous savez, là aussi, c'est la deuxième question traditionnelle. On veut savoir comment ça marche, que vous nous racontiez tous les secrets de Jets & Log, depuis quand ça existe, combien vous êtes, quel est votre périmètre d'intervention géographique, quel est le bouquet de services en détail que vous proposez à ces agents immobiliers. Allez, Alexandre, c'est à vous.
Avec plaisir. C'est parti. Alors, du coup, en une minute, on va essayer de faire bref. L'idée est simple, tout commence par un partenariat qui n'a aucun engagement, aucune exclusivité. Vous allez avoir accès à une plateforme. Notre plateforme a été créée très peu de temps après la création de la société. Donc nous, on a créé la société en 2019. On a créé la plateforme également en début 2020, on va dire, donc très peu de temps après. On est aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs qui vont répondre à vos questions par téléphone, avec un standard téléphonique, par mail, etc. Donc on a tout un service. On travaille sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM-TOM. On n'a aucune limite. Nos ambassadeurs, finalement, sont nos partenaires qui, eux, sont sur le terrain et qui vont s'occuper de la partie commercialisation, à savoir passer l'annonce et faire des visites pour des locations. Et nous, on s'occupe vraiment de tout l'administratif. Ça veut dire que sur cette plateforme, vous allez créer votre dossier en quelques minutes. Vous allez ensuite pouvoir nous indiquer les conditions financières que vous souhaitez appliquer. C'est rapide, une minute. C'est déjà le gong que j'entends.
C'est ça. C'est rapide, une minute.
C'est très rapide. Bon, de toute façon, pour conclure, on s'occupe de tout l'administratif. Vous vous occupez du terrain et vous profitez bien évidemment de la réversion des honoraires de gestion tous les mois. Ça vous fait une récurrence. Et on vous redonne les ventes derrière puisque vous aurez fidélisé les clients propriétaires.
Dans un schéma complètement sécurisé au regard de votre expertise, de votre expérience. Vous existez depuis combien de temps ?
2019, on a
2019.
Été créé en 2019.
2019, ouais. Donc là vous allez fêter vos 5 ans. Est-ce que vous C'est pouvez ça. Nous donner des références ?
Bien sûr, avec plaisir. Nous, en fait, au fur et à mesure du développement, déjà, on a une stratégie terrain au niveau du commercial, c'est-à-dire qu'on prend la peine d'aller voir les agences partout en France, on se déplace, on a des commerciaux qui vont à la rencontre des agences. Le but, c'est vraiment de pas se limiter à la prospection téléphonique et de proposer un service un peu sur mesure. Et on a effectivement, au fur et à mesure, développé des contrats cadres hein, avec certaines enseignes. Aujourd'hui, on travaille par exemple avec des Century 21, des Orpi, on travaille également avec des Stéphane Plaza, et bien sûr, on travaille aussi avec beaucoup d'agences indépendantes. On n'a pas de limite là-dessus. L'idée, c'est que vraiment, on est sur un partenariat gagnant-gagnant, étant donné que plus notre partenaire va avoir de la facilité à proposer la gestion locative, plus il va gagner de l'argent grâce à nous et plus on va en gagner grâce à lui.
Alors, comment on vous contacte ?
Alors, c'est très simple. Par téléphone, sur notre standard, donc le 04 28 70 53 00, ou alors simplement sur notre mail, donc contact@gestenlock, tout attaché. Donc, geste comme le début du mot gestion, end comme et en anglais, A-N-D. Et loc, comme le début du mot location, okay. loc.com.
Un grand merci au nom de Radio Immo, Alexandre.
Avec grand plaisir.
C'était une joie de vous accueillir. On vous souhaite de continuer sur votre belle trajectoire et puis on sera ravis de vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous expliquiez vos prochains succès. En tout cas, un grand bravo, félicitations et à très bientôt, Alexandre. Merci beaucoup.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
De retour de le Mac de l'Immo et tout de suite on parle sport, on parle des Jeux Olympiques puisque la capitale hein, Paris veut profiter de cet événement pour durcir les règles visant à congédier les locataires. On écoute Erwan Lemercier.
Le député socialiste Iñaki Enchaniz a déposé une proposition de loi pour mieux encadrer les congés locatifs frauduleux, une démarche qu'il a récemment expliquée à nos confrères d'RMC. Ce mardi 19 mars 2024, l'Agence départementale d'information sur le logement, l'ADIL, a révélé une forte augmentation à l'approche des Jeux Olympiques. En effet, la proportion de locataires parisiens qui ont signalé que leur propriétaire avait mis fin au contrat et par la suite tout simplement demandé de quitter le logement sans respecter les formes Pour rappel, en 2022, 19% des congés signalés à l'ADIL n'étaient pas valables sur la forme. C'est ce qu'a déclaré lors d'un point presse la directrice Hélène Le Gall. Un chiffre passé à 23% en 2023, puis à 28% entre septembre et février 2024. Alors, quelle différence entre un congé valide et non valide? Eh bien, si légalement un propriétaire a le droit de récupérer son bien pour le vendre ou pour s'y loger lui-même ou des proches, en prévenant le locataire au moins 3 mois à l'avance, 6 pour un bien non meublé, de nombreuses dérives sont pointées du doigt ces derniers temps, notamment en raison des prix des locations pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui sont plus qu'attractifs. En effet, les congés non valides, dans leur motif, ils restent tout simplement difficilement identifiables. Depuis le 15 janvier dernier, l'ADIL a donc mis en place une ligne téléphonique dédiée aux congés qui permet d'obtenir des informations et de prendre rendez-vous si le besoin s'en fait sentir avec un juriste. Des responsables politiques également et associatifs craignent que de plus en plus de bailleurs n'expulsent leurs locataires pour mettre leurs biens sur une plateforme du type Airbnb et le louer à prix d'or à l'occasion des JO. Et donc Iñaki Etxaniz, député socialiste, lui s'inquiète de ces congés frauduleux. Il déclare même que des propriétaires de bonne foi, mais aussi des propriétaires qui font un congé et qui mettent dans la foulée leurs biens sur Airbnb. Il le rappelle, c'est illégal et c'est ce qu'on voit à Paris en ce moment de plus en plus, rappelle-t-il au micro de nos confrères d'RMC. Il y a donc une vraie embolie sur le nombre de congés pour vendre qu'il faut aujourd'hui encadrer parce que les fraudes se multiplient, conclut le député. Il est nécessaire d'apporter un cadre plus ferme avec plus de contrôle également. Il ne faut pas attendre d'être au creux de la vague pour réagir. Et la proposition de loi a, elle, par ailleurs, été présentée le 18 mars au ministre délégué chargé du logement, Guillaume Kasbarian.
Le Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.
Cette première partie du Mac de l'Immo touche à sa fin. Sophie Richard et Erwan Lemercier me rejoignent en studio. C'est Erwan Lemercier qui va s'entretenir avec la fondatrice du réseau national Viagimo. Et puis, juste avant, on va écouter le Flash Info, puisque c'est quand même important. Et puis, la première musique de notre invité, il s'agit de Résiste de France Gall. À très vite dans le Mac de l'Immo.
Résiste. Est-ce que ça vaut la peine? Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi, résiste.
Mac de l'Immo, toute l'actualité immobilière sur Radio Immo.